c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saintonge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Coup de cœur pour les histoires d'Anouk qui vient d'être mise en ligne sur la plateforme France.tv. À cette occasion, les créateurs Jacques Kugler et Marion Michaud seront nos invités accompagnés de leurs deux héroïnes Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche. On aura le grand plaisir en fin d'émission de vous faire découvrir le nouvel EP de Magali Vahé, l'ancienne gagnante de la Starac 5. À l'interprète Bardot depuis 2 semaines maintenant sur France 2, Julia de Nunez sera notre invité exceptionnel pour revenir sur cette incroyable biopic que l'on vient de découvrir sur France 2 et dont c'est le final ce soir. Il vient d'arriver dans la série Ainsi Grand Soleil. Il est en train de tourner d'ailleurs Les Invisibles saison 3. Jérémy Covillo sera notre invité. Elle cartonne également dans HPI. Elle joue le rôle de Daphné. Bérangère McNeese également sera notre invité exceptionnel pour revenir sur le succès incroyable de cette série. Voici tout de suite notre spécial des histoires d'Anouk.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va parler des histoires d'Anouk, la fiction que vous allez pouvoir retrouver sur France Télévisions, sur le site France TV / la plateforme de France Télévisions, avec cette histoire créée par Jacques Kugler et Marion Michaud qui sont avec nous aujourd'hui à la réalisation. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une adaptation d'un livre, Les histoires d'Anouk. Hein.
Tout à fait, c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle I Love, que j'ai écrit il y a 4-5 ans. Et donc, comme toutes les adaptations, c'est pas complètement le livre, mais ça s'en inspire.
C'est quoi les histoires d'Anouk en quelques mots, Jacques ?
C'est l'histoire d'Anouk qui part à la recherche de ce qu'elle croit être l'homme de sa vie. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est pas vraiment l'homme de sa vie, mais sur le chemin, elle va croiser un homme qui pourrait être l'homme d'une partie ou de toute sa vie. Et c'est ce parcours de femme, ce parcours d'une histoire d'amour qui se dessine au fil de l'eau, et elle le fait avec sa copine. Et c'est ce rapport entre deux femmes qui ont des chemins différents, mais qui sont tellement complémentaires.
C'est vraiment de la comédie romantique, hein.
Oui, avec la particularité de s'appuyer sur un univers qui est celui de Marion, qui est un univers qui nous fait sourire et nous fait réfléchir à la fois, pose les questions et les aborde avec beaucoup de légèreté, d'intelligence, et donne envie d'y réfléchir.
Ouais, les remises en question, le célibat, il y a plein de choses qui sont évoquées en fait au travers de cette fiction.
Tout à fait, et moi ce qui me plaît, c'est que ça s'adosse sur une amitié très forte entre deux femmes, et que au départ on pensait faire vraiment une comédie romantique pur jus, et la façon dont Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche ont incarné et ont donné vie à cette amitié, finalement je trouve que c'est le cœur battant du film. Et la comédie romantique est là aussi, mais le cœur battant, c'est vraiment cette amitié, je trouve.
Oui, c'est vrai, de façon sérieuse, mais aussi sur ton de comédie, et ça c'est chouette de pouvoir explorer plusieurs facettes aussi de leur personnage, parce qu'elles y envoient une énergie folle, hein, les deux. Hein.
Ah oui, on a eu une chance extraordinaire d'une magie qui s'est faite avec Bérangère Krief d'un côté, Noémie Chiche-Portiche. Il y a eu une rencontre et une énergie extraordinaire, et deux comédiennes formidables qui ont porté les deux personnages et qui ont traversé l'univers qu'on avait imaginé, et c'était formidable.
Vraiment. On va les recevoir dans un instant, justement, avant de nous parler aussi de leur rôle, toutes les deux, Bérangère et Noémie. À quel moment vous avez eu envie d'adapter votre livre, Marion ?
Eh ben, au tout départ, Bérangère le lit alors que je ne la connaissais pas. Et elle fait un post absolument craquant sur Instagram. Donc je la remercie. Hein. Ça reste comme ça. Et puis Bérangère en parle à Jacques, qui avait la double casquette de réalisateur et de producteur. Elle lui en parle comme producteur au départ. Jacques m'approche et l'aventure commence comme ça. Au tout départ, quand j'écris le livre, j'écris pas un scénario, parce que c'est par ailleurs autre chose.
Enfin, moi, c'est pas la même chose.
J'écris des scénarios, mais quand j'écris des livres, j'écris vraiment des livres. Donc, j'essaye d'oublier les règles du scénario, les rebondissements, etc. Et finalement, je crois que ça reste un peu dans l'ADN du film, ce côté littéraire qui n'est pas construit complètement comme un unitaire classique.
Alors, le tome 2 du livre n'existe pas, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un tome 2 pour les histoires d'Anouk ?
On en rêve.
On en veut.
Il faut qu'on retrousse nos manches et qu'on l'écrive.
On va demander aux filles, en tout cas, si elles sont d'accord pour empiler, mais je suis sûr que oui.
Rien n'est fait encore, mais on est tombé tellement amoureux de ce duo de comédiennes qu'on a envie de les revoir. Bon.
Et ben nous aussi, on a envie de les voir. On va les recevoir d'ici quelques instants. On va écouter la bande-annonce. L'histoire d'Anouk débarque sur France TV/. Et on revient juste après avec Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche qui vont nous parler justement de leur rôle et du plaisir qu'elles ont eu justement à jouer dans cette belle comédie, dans ce beau film. Merci à tous les deux. Merci Jacques, merci Marion d'avoir été avec nous.
Comment t'as cette photo dans ton portable si tu l'as pas prise?
Mais je ne sais pas. Le prix charmant n'existe pas, ok. Mais avoue que s'il existait, il ressemblerait à ça.
Géolocalise tes photos.
Et on se rend compte qu'il habite à Barcelone.
Eh ben ok, on y va.
Vous allez pouvoir découvrir donc les histoires d'Anouk. On va continuer à en parler avec Bérangère Krief et Noémie Chiche-Portiche qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux les filles.
Salut, bonjour. Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. On va présenter dans les personnages d'Anouk et Poca avec vous les filles. Mais déjà, qu'est-ce qui vous a plu dans les histoires d'Anouk?
Moi, je connais Marion parce que j'ai lu tous ses livres. Je la connaissais à travers donc ses romans. J'ai eu envie de travailler avec elle sur un projet avec Jacques Kluger. Projet qui ne s'est pas fait, mais qui a permis à Jacques et Marion de se rencontrer. Et du coup, ils ont adapté ce livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle I Love. Et la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a plu dans le projet? Moi, j'adore tout ce que fait Marion. Je trouve que c'est une excellente dialoguiste et je trouve le scénario hyper bien écrit et surtout c'est vraiment des bonnes répliques, c'est vraiment de la comédie, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est comme de la musique. Et puis avec Noémie, on se connaissait pas, on s'est rencontrés pour les essais, le casting, et en fait ça a matché tout de suite, donc j'ai trouvé une musicienne de comédie comme moi avec ce goût là donc ça a été encore plus fort de jouer une partition à deux comme celle-là, quoi.
Surtout cette partition-là, c'est vrai que c'est rare de recevoir des scénarios qui donnent autant envie, en fait. Et avec des personnages qui sont drôles, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sous-couches, déjà à la première lecture, puis ensuite avec le travail qu'on a fait avec Marion, notamment, sur vraiment, on a essayé vraiment de construire leur passé. Marion nous a envoyé des notes sur notre amitié, depuis quand on se connaît, comment on s'est connus et tout. Donc on s'est vachement nourri. Et donc c'était hyper intéressant d'approfondir vraiment ces persos, d'apprendre à les connaître, quoi.
Moi, en ayant lu le livre, déjà, je voyais le film. Donc, quand on me propose de le faire, je dis, c'est un grand oui.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est votre énergie. Vous mettez une énergie permanente pendant 90 minutes. On s'ennuie pas. Et vraiment, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment chouette d'avoir deux comédiennes qui donnent comme ça à l'écran. C'était vraiment frappant, quoi. On s'ennuie pas une seconde.
On a eu beaucoup de chance. Ça revient un peu sur ce que disait Bérangère. Mais on a eu beaucoup de chance d'être toutes les deux, parce que c'est vrai que moi, j'appréhendais un peu. On se connaissait effectivement pas du tout et on devait jouer quand même des amis d'enfance qui se connaissent très bien et puis qui se foutent sur la gueule, qui se marrent, qui s'embrassent, qui pleurent, enfin c'était comme
la vie, quoi,
la vie. Et donc je me suis dit j'espère quand même que je vais bien entendre avec cette meuf, parce que vu l'intensité du tournage, vaut mieux. Et en fait, c'est pas qu'on s'est bien entendu, c'est qu'il y a une sorte d'alchimie, c'est-à-dire que il y a des moments où je la regardais être émue sur une scène et j'étais émue comme dans la vie quand tu vois une copine pas bien et que ça t'émeut, enfin. Et donc vraiment on s'est laissé porter par ça et c'était assez magique, franchement.
C'est un plaisir de jouer ensemble parce que déjà ce scénario, enfin nous on adore les mots de Marion. On avait hâte de jouer certaines scènes. On se disait putain, la scène du truc, c'est jouissif, quoi. Et c'est assez rare d'avoir cette pétillance là. Donc oui, on était ravis.
Alors ça commence par Anouk qui raconte un peu à ses amis effectivement ses histoires. Alors on repart en illustrant ce qui se passe et ce qu'elle raconte, Anouk. Et puis à un moment donné, bah, y a une photo qui surgit sur ton téléphone. Elle a dit, mais moi je me souviens pas du tout de ce bellâtre qui surgit sur mon téléphone. Et là c'est toute une enquête, une comédie romantique qui nous attend dans cette fiction.
Eh ben oui oui, c'est assez moderne comme conte en fait finalement, avec ce souci d'iCloud qui va en fait je reçois les photos sur mon nouveau téléphone parce que mon cloud est connecté à mon ancien téléphone qui a été volé, et donc je reçois ces photos de mecs et je me dis mais alors qu'est-ce qui se passe.
Et des mecs pas mal.
Mecs pas mal.
Donc on se dit est-ce que c'est pas l'homme de ta vie franchement, ah, oui. Parce que c'est quand même fou d'en recevoir autant, est-ce que c'est pas le destin, enfin voilà.
Ça parle donc du coup de, c'est vraiment, quand je dis conte moderne, c'est vraiment le célibat, le rêve du prince charmant, qu'est-ce qu'on en fait, toute la story autour d'une histoire d'amour qui n'est même pas encore née, toute la projection qu'on peut en faire. Elles partent à Barcelone voir ce gars quand même. Bon, c'est pas rien.
On va tenter de le retrouver.
Bah oui, oui, oui. Donc, non, on a. Moi, je trouve que ça traite de ces sujets-là. Moi, ça me parle énormément. Enfin,
concernant Poca,
oui,
justement du côté femme qui devient maman et qui s'oublie un peu, qui doit avoir un peu toutes les casquettes de la maman, de la femme, de la maîtresse, etc. Et qui à un moment donné se sent complètement débordée et oublie un peu son couple et voilà. Et moi, Poca, ce qui m'a vachement touchée, c'est que c'est une mère hyper aimante. Je pense qu'elle est un peu chef de famille, quoi. Elle adore, c'est son clan. Elle a envie de tout leur donner, mais elle se donne plus rien à elle-même. Et voilà. Et j'ai trouvé son cheminement hyper intéressant parce que voilà, elle va finir par se rendre compte qu'elle s'oublie complètement et qu'en fait c'est pas forcément sain. Voilà. Le but dans le film, c'est qu'on espère qu'elle va se retrouver, se rendre compte de tout ça et se reconnecter un petit peu à sa vie à elle aussi, quoi.
J'allais demander comment tu définirais Poca, ben au moins ça s'est fait. Noémie, c'est parfait.
Mère sacrifice, et puis après on espère qu'elle va comprendre des choses aussi grâce à son amie et grâce au parcours de son amie. Elles sont tellement proches et en même temps plus si proches parce qu'elles ont des vies tellement différentes que voilà, elles vont s'apporter des choses mutuellement.
C'est vrai.
Comment tu définirais Anouk du coup?
Anouk,
c'est une douce rêveuse un peu. Dirais, moi.
Anouk, des fois, je suis pas loin de Nanouk. Hein.
Ouais, ouais.
Mais en fait, je pense que c'est une fille qui a du caractère, qui sait un peu ce qu'elle veut, mais qui, au niveau de l'amour, s'oublie aussi. En fait, c'est deux filles qui s'oublient complètement. Et d'un coup, elle mène sa barque, elle mène sa vie, c'est ok. Et puis d'un coup, parce qu'il y a un mec, elle lâche tout. Elle doit être quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que ça parle à pas mal de gens. Et de croire qu'on doit se transformer quand on est amoureux ou quand on est avec quelqu'un. Donc, elle a ce truc-là, mais c'est une fille, elle est un peu gauche et lui arrive toujours des grosses looses. Mais ça, on aime bien.
Vous voulez voir du romantisme, vous voulez voir de la comédie, eh bien, c'est les histoires d'Anouk qui vous faut découvrir. Est-ce que c'est bouclé ou est-ce que vous avez envie, en tout cas, de faire une suite? Est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas, si on vous écrivait une suite à ces histoires d'Anouk 2, pourquoi pas, est-ce que vous seriez partantes toutes les deux?
Oh, oui, grand, oui, 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 mais évidemment.
Vraiment le oui comme à la mairie.
Ouais, ouais.
Oui, je dis oui, oui, je dis oui.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà, on a eu un tournage et pourtant, on a tourné très, très rapidement. On a tourné à Barcelone. Un Barcelone qui avait des allures de Bretagne. Pour une fois, on a eu des intempéries.
On était parti pour avoir le soleil et puis on était en doudoune avec des thés chauds à la plage. Enfin, c'est complètement absurde.
Ça n'a pas été un long fleuve tranquille du tout. Et pourtant, on en a un souvenir génial et on rempile quand Marion a fini d'écrire. Hein.
Ah oui, on est là.
Et ben c'était le mot de la fin. Merci en tout cas, Bérangère. Merci Noémie d'avoir été avec nous. Et on va découvrir donc ensemble les histoires d'Anouk cette semaine sur France Télévisions. Merci à toutes les deux.
Merci, merci à toi.
On est là pour rencontrer l'ombre de ta vida.
Olé. Allez, le gars s'appelle Ramon.
C'est Raymond.
Il s'appelle Ramon.
Eh bien, très bien. Super. J'accueille. J'ai décidé de prendre la vie comme elle vient.
Moi, quoi. Je suis ça dans tout ça.
Mais je suis prévoyante, voilà. C'est des culottes. Oui, de rechange, on sait jamais, voilà.
Et dans un instant, Julia de Nunez, Jérémy Covillo, Bérangère McNeese et Magali Vaé sont avec nous dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Bardo. C'est le final ce soir. La série événement se termine. Et incroyablement interprétée par Julia de Nunes qui est avec nous justement au téléphone. Bonjour Julia.
Bonjour, bonjour.
Quelle prestation, quelle série on a passé là, c'est la troisième semaine, troisième lundi ce soir, on a passé franchement déjà deux lundis incroyables avec cette série. Comment on fait pour s'approprier de la façon que vous avez fait une icône comme celle-ci, comme celle de Brigitte Bardot?
Bon, déjà merci beaucoup. Au départ, c'est sûr que il y a eu beaucoup de recherches. Je me suis beaucoup documentée. Les Thompson ont fait vraiment un travail absolument incroyable. Ils avaient beaucoup de d'archives. Il y avait beaucoup de matière, quoi.
Ouais.
Donc évidemment, moi, j'ai regardé beaucoup de ses films. J'ai lu ses mémoires. Je l'ai beaucoup regardé. Je l'ai beaucoup écouté. Et non seulement elle, je pense que quand on interprète un rôle comme ça, il faut aussi s'intéresser à tout ce qui se passe autour de la personne et donc dans quel contexte elle vivait, parce que c'est quand même les années 50, on vit pas comme on vit aujourd'hui. Toutes ces choses, il fallait que je les saisisse, il fallait que je les comprenne et que je m'en imprègne. Donc j'ai aussi beaucoup regardé des films de la nouvelle vague de ces années-là, mais très vite je me suis rendu compte que je voulais pas aborder, et des Thompson non plus, mon travail dans une forme d'imitation. Je pense qu'il fallait que ça aille plus loin que ça, parce qu'on voulait vraiment que ce soit une incarnation. D'ailleurs, les Thompson parlent pas de biopic, mais vraiment de fiction. C'est ouais. Une autre point de vue, c'est mon interprétation à moi sur cette femme.
Ben oui.
C'est ce qu'on a essayé de faire.
C'est pour ça que je parle justement d'appropriation, de cette appropriée justement, et de comment on s'approprie des fois une chanson et on la réinterprète un peu.
Je suis contente que
sa façon, c'est dingue,
parce que c'est vraiment ce qu'on a recherché. Je pense que ça n'a pas été très intéressant, surtout pour quelqu'un comme Brigitte Bardot, de la copier en fait. Voilà, Bardot qui est quelqu'un tellement d'authentique, tellement sincère, où les choses se font tellement viscéralement chez elle, qu'il fallait ça le soit aussi, en fait, pour la personne qui allait l'interpréter. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui vient et qui émane de moi. Sa vérité à elle, je la retranscris, mais de mon point de vue à moi, de mon interprétation à moi. Et ce sera jamais la sienne, en fait. C'était important.
Bon.
Et d'autant plus, encore une fois, pour interpréter, Brigitte Bardot.
On apprend plein de choses sur la femme qu'elle était, évidemment, à cette époque-là.
Ouais.
On apprend plein de choses sur sa jeunesse, qui n'a pas forcément été facile. On apprend vraiment énormément de choses dans cette fiction. Et c'est ça que moi, j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a découvert des choses méconnues, justement, sur cette icône. Et aujourd'hui, moi, vous voir, justement, dans cette série, tourner des scènes à Saint-Tropez, de Dieu créa la femme, et de reprendre, justement, un peu ça, vous avez dû vivre ça de façon assez dingue, de vous trouver au même endroit qu'elle plus de 50 ans plus tard, à essayer de retourner les mêmes scènes, à s'approprier ce rôle. Ça a dû être assez dingue de se retrouver comme ça à Saint-Tropez.
Ah oui, c'est dingue. Et surtout que je pense, ce qui a participé aussi à ce vertige-là et à ce qu'on y croit, c'est évidemment les décors, les costumes, tout ça participait à recréer, essayer de recréer cette réalité-là. Donc c'était, il y avait un côté un peu... Alors moi, parfois, j'avais l'impression de dépersonnaliser. Vraiment, c'était incroyable de revivre ça.
Et puis là, de se dire, elle est à quelques kilomètres de nous, quoi, en plus. C'est ça, le pire aussi. Ça doit être assez
dingue. Oui, en plus. C'est un peu vertigineux de se dire que Brigitte Bardot était pas loin de tout ça.
Bon, en tout cas, il y a un casting incroyable, c'est ce qu'on se disait, hein. Je pense à Michael Mittelstadt, mais je pense bien sûr aussi à Victor Belmondo, à Fabien Wolfram qui nous parlait déjà il y a quelques semaines justement de cette expérience qu'il avait vécue dans la peau de Sacha Distel, mais voilà, c'est le casting est fou quoi autour de vous là.
Oscar Le Sage, Jacques Charrier, Noamel qui joue Jean-Louis Trintignant et bien évidemment aussi les ceux qui jouent mes parents, Géraldine Pellas, Hippolyte Girardot, c'était dément. Jamais de ma vie, un jour, j'aurais cru pouvoir être la réplique de ces acteurs que j'admire. C'est dingue.
Quel sera le plus beau souvenir pour vous de ce tournage? Qu'est-ce qui restera dans 10, 20 ans quand on vous reparlera justement peut-être de Bardot? Vous vous direz quoi à ce moment-là?
Je crois que c'est ces rencontres avec tous ces gens. avec les Thompson, avec ouais, ces acteurs, cette équipe. C'était ma première fois, c'était ma rencontre avec le cinéma, est-ce que c'était qu'un tournage, et c'est un tout en fait. J'ai absolument tout découvert de ce que c'était que qu'un tournage et que de travailler en équipe et de rencontrer des gens et de en plus du coup s'attacher très vite aux gens parce que ce qui est assez étrange c'est que on rentre dans une forme d'intimité très rapidement avec les acteurs, ses partenaires, parce qu'on vit des choses très fortes ensemble et c'est marrant sans se connaître non plus, c'est pas des gens de ta famille qui connaissent ton histoire, mais à travers ces histoires là est-ce qu'on joue? Il y a une intimité qui se crée forcément entre les acteurs et entre toute cette équipe et ça je l'ai découvert, donc c'est une expérience humaine avant tout magnifique, on n'oublie pas.
Merci infiniment.
Merci
beaucoup. Bardot,
merci.
Le final c'est ce soir, c'est sur France 2 à 21h10 juste après Un si grand soleil, ne le ratez pas, avec Julia de Nunez et plein d'autres mondes autour. Voilà, vous allez voir, le casting est complètement dingue et si vous avez pas vu les 4 premiers épisodes, vous pouvez vous les rattraper sur france.tv. N'hésitez pas en tout cas à aller découvrir cette mini-série événement. Merci beaucoup Julia et à bientôt.
J'ai rompu mon contrat hier.
Tu aurais dû le laisser partir faire son tournage. On aurait été beaucoup plus tranquille.
Vous croyez vraiment qu'elle est capable de jouer ce personnage?
Pour moi, la vérité, c'est Clouseau, Bardot.
Il ne vous aimait pas. Mais la caméra vous aime, c'est ça le problème.
C'est votre gagne-pain, Brigitte. À vous et à tous ceux qui sont ici, d'ailleurs.
Ok pour la une. Et on titre Bébé attend un bébé.
Notre coup de cœur télé s'intéresse toujours à HPI. On adore cette série. Évidemment, jeudi, vous allez voir la suite de la série. On va faire un petit focus sur le personnage de Daphné, qu'on adore, nous, personnellement. Et c'est Bérangère McNeice qui est avec nous en ligne. Bonjour, Bérangère.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Non, mais comment on se remet d'un succès pareil quand on a la chance dans une carrière d'avoir une série qui aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout, attire quasiment 10 millions de téléspectateurs? C'est incroyable.
Bah oui. C'est incroyable et en même temps c'est marrant parce que 10 millions, c'est tout ce que j'en sais, c'est que c'est vraiment beaucoup, mais après c'est très difficile à se figurer tellement c'est beaucoup. Donc ça reste un peu abstrait, c'est plus dans des événements un peu plus concrets quand on fait des projections et que le premier rang est divisé en Morgan Alvaro et qu'on voit le nombre de gens qui sont enthousiastes. C'est vrai que c'est assez fou quoi, c'est une incroyable aventure.
Alors, c'est assez choral, toutes les scènes que Daphné a là, c'est souvent avec Gilles, avec Karadec, et du coup, il y a des scènes qui sont souvent assez drôles, et on va dire qu'on a retrouvé une Daphné dans les deux premiers épisodes, pour l'instant, qu'on a vu, pas très accueillante, hein, on va dire, avec le petit nouveau qui était censé remplacer Morgane, hein, finalement.
Tout à fait, avec Timothée. Ben, en fait, oui, je pense que ce qui est un peu le paradoxe de Daphné, c'est que dans les deux premières saisons, on a bien vu que même s'il y avait un attachement avec, qu'elle avait une forme d'affection pour Morgane, c'est hyper difficile pour elle de l'accueillir vraiment dans l'équipe parce que les façons de faire qui sont hyper opposées. Daphné, c'est quelqu'un d'assez procédurier et qui veut bien faire. Et Morgane arrive et elle fait ça complètement différemment à sa sauce, en respectant aucune des procédures. Donc, Daphné, ça la rend un peu dingue. Et pour autant, maintenant qu'elle est plus là, Morgane, Morgane lui manque, quoi. Et elle a du mal à accueillir quelqu'un qui viendrait la remplacer. C'est le début de cette affection qu'on va commencer à vraiment avoir en saison 3.
Ouais. Et moi, j'ai adoré ses regards. On aurait dit qu'elle avait les mitraillettes dans les yeux quand elle regardait Timothée. Il y a eu des scènes qui étaient vraiment très, très drôles où vraiment, elle se retourne. C'est limite, regarde-moi dans les yeux, je vais te fusiller, quoi.
C'est génial d'accueillir un nouveau personnage qui, en plus, est joué par Jeremy Lewin, qui est vraiment un acteur incroyable. Parce que ça ramène du sang frais et puis, en même temps, des nouveaux enjeux, des nouveaux rapports avec des nouveaux personnages. Et c'est vrai que le personnage de Timothée, on va le voir dans toute la saison, a vraiment une importance assez capitale et très très marrant.
Bon, à la fin du deuxième jeudi dernier, on a vu que ça y est, Morgane est sortie de prison et voilà, se tâte, hein, va-t-elle revenir en tout cas au sein de vos enquêtes? En tout cas, elle en a bien envie, on le sent.
Avec son nouveau tatouage.
Oh là, et là le tatouage, c'est excessivement drôle. Alors vous l'avez vu à la fin de l'épisode du deuxième épisode, fuck la police, hein. Bon, c'est Morgane quoi, dans toute sa splendeur. Elle arrive à vous faire garder votre calme et puis votre sérieux quand vous la voyez comme ça déballer des scènes de cette force-là pour le coup.
Dans la vie, vous voulez dire, en tant que comédienne?
Ouais, en tant que comédienne et sur le plateau, parce que ça doit être difficile de garder face à une Audrey Fleurot qu'en donne autant, de garder des fois son calme et de pas rire finalement.
En fait, c'est la chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre quand même, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses, on a le droit de créer un peu sur base du texte, et ça c'est quand même assez rare. surtout dans une série qui est quand même assez attendue et donc pour laquelle on pourrait imaginer que qu'il y ait moins de liberté. Et c'est pas du tout le cas. Donc au contraire, que ce soit avec Audrey ou avec avec Bruno ou avec Mehdi, enfin il y a mille et une façons de s'amuser sur ce plateau et c'est ok en fait, c'est complètement toléré. Donc c'est quand même une chance, ouais. S'amuse bien.
Je comptais en 3 ans de temps, Bérangère, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de tournant depuis le confinement et depuis le Covid, qui j'ai l'impression vous a tourné chance. 5 longs métrages, 7 séries différentes. Alors des longs métrages, je vais parler d'En effet pour s'entendre parce qu'on avait reçu Pascal Elbé notamment, mais je pense à des séries comme Face à Face, comme Braqueur pour Netflix ou encore Lycée Toulouse-Lautrec qu'on a vu en janvier dernier. C'est vraiment depuis 3 ans, il y a eu un tournant dans votre carrière là.
Ouais, c'est rigolo. En fait, c'est assez étonnant, mais ça fait quand même assez longtemps que je tourne, parce que j'ai commencé étant enfant, donc
c'est
ça a toujours fait partie de
ma vie. Ben oui. C'est ce qu'on voit, hein, quand on regarde la filmographie. Ouais. Ça a démarré quand même il y a plus de 10 ans, quoi.
Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que ce confinement, le premier a été beaucoup plus calme et plutôt l'occasion d'écrire, et le deuxième, c'était assez fou. Ça a commencé à être assez fou. Il a commencé à avoir pas mal de tournages. Alors, je sais pas, il y a certainement un effet boule de neige de, bah, par exemple, HPI qui amène d'autres choses, etc. Mais même avant HPI, ouais. C'est rigolo de voir comment il y a des moments comme ça dans une vie professionnelle où ça s'accélère. Et puis, j'imagine qu'il y a des moments où ça se calme aussi, et c'est très bien, en fait. Moi, j'accueille ça avec joie maintenant parce que je m'amuse beaucoup. Puis c'est, bah, vous le disiez, il y a beaucoup de choses différentes, quoi. Entre Braqueur et HPI, des gens bien sur Arte, c'est vraiment des programmes très, très différents. Et donc, ouais, je m'éclate.
Moi, je vois dans votre filmographie des réalisateurs, des comédiens qui ont dû changer un peu les choses, le cours justement de votre existence et qui ont dû vous marquer dans votre carrière. Je pense à Nicolas Cuche, qu'on connaît bien. Je pense à Alain Tasma, je pense à plein de monde. Et quelles sont justement ces personnes qui ont changé un petit peu tout ça?
Il y en a quelques-uns, c'est difficile de citer tout le monde parce qu'en fait c'est pas forcément, enfin, je veux dire, ça peut être des occasions qu'on me donne de faire ma place, mais en même temps ça peut aussi être juste enfin je peux citer par exemple Stéphane De Groot sur Toulouse-Lautrec qui m'a hyper bien accueilli sur le plateau alors que moi je venais pour faire pas, enfin je suis que dans un épisode, etc., qui était hyper positif et bienveillant et génial. Enfin ça peut être des très petites choses, quoi, qui font que on se sent à l'aise et qu'on et voilà, et puis qu'après on a envie de continuer, etc. Et puis oui, bah Alain Tasma, c'est sûr, je sais que c'était une expérience incroyable de faire ce téléfilm, ça fait Le Viol, donc pas une comédie pour le coup, quelque chose d'assez intense, basé sur une histoire vraie qui se passe dans les années 70. Marseille. Voilà, c'est un programme qui moi a pas mal changé aussi ma vision de mon métier. Parce qu'une fois qu'on raconte une histoire aussi importante, c'est assez difficile d'envisager de ne plus le faire, en fait. On a envie de raconter des choses qui comptent, quoi. Et raconter des moments de l'histoire qui ont un peu changé le cours de l'histoire, notamment pour les femmes, parce que c'est toute l'histoire du procès où elles étaient défendues par Gisèle Halimi. Donc enfin, voilà, c'est des choses qui étaient vraiment importantes. Et ça, c'était une expérience incroyable aussi, ouais.
Alors, vous serez à l'affiche aussi du prochain film d'Olivier Van Hoogstadt aussi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée qui sortira bientôt au cinéma. Il y a d'autres projets aussi pour la suite. Et puis, une nouvelle saison, j'imagine, la quatrième est déjà en écriture de HPI. Mais j'ai l'impression que c'est bien parti encore là pour 2024, 2023, 2024, Bérangère.
Ouais, il y a plein de choses, ouais. Il y a pas mal de nouvelles saisons de choses, mais donc je suis pas tout à fait sûre de ce que je peux vous dire ou pas. Dans le doute, moi, j'aimerais rien parce que j'ai tellement peur d'avoir un coup de fil par la suite, mon gueule. Donc, il y a plein de choses. Il y a d'autres projets aussi, du long métrage, de docu-fiction, plein de choses différentes. Ouais, ça va encore être une assez remplie.
Bon. Et si on devait terminer par un des meilleurs souvenirs de Daphné? Du personnage de Daphné, pour le coup, une scène qui vous a marqué sur ces 3 saisons et vous avez adoré, en tout cas, jouer et faire.
Bah, plus qu'une scène, il y a un épisode qui va arriver là dans cette saison, qui est, je crois, l'épisode 6, où Morgane et Daphné partent enquêter ensemble. Donc, Daphné sort de la DPJ et part enquêter avec Morgane. Et donc,
ça a dû vous faire du bien.
Oui, c'est sûr, ça fait du bien. Et puis, c'est encore plus génial de s'amuser, ouais, sur le terrain, sur d'autres décors, avec d'autres comédiens. Enfin, on croise plus de monde, c'est assez cool. Et donc, voilà, je pense que cet épisode-là, je crois que c'est peut-être bien mon préféré de tous les épisodes de HPI.
Ah, on le verra d'ici 3-4 semaines en juin, évidemment sur TF1 qu'on le découvrira.
Ouais.
Exactement, c'est le 5e, hein. C'est le 6e, hein, c'est ça, de la saison?
Le sixième, c'est mon préf.
Ouais, donc ouais. On ne l'a pas encore sur MyTF1 Max. Hein, on a jusqu'au 5 hein, pour l'instant sur MyTF1 Max. Hein, on vous rappelle, si vous avez envie de voir HPI en avance, vous avez jusqu'au 5e épisode pour l'instant sur MyTF1 Max que vous pouvez voir donc du coup sur la plateforme de TF1. Merci beaucoup en tout cas Bérangère d'avoir été avec nous. On va suivre les aventures de Daphné, de Morgane, Karadec, Gilles et tous les autres. Ça sera jeudi à 21h10 sur TF1. La suite tant attendue de cette troisième saison inédite. Merci beaucoup et à très bientôt. Bérangère.
Merci à vous, Alain.
T'es relou aujourd'hui, maman. C'est la reprise du boulot qui te met comme ça. Ça te stresse?
Tu crois?
T'es pas du tout stressé, hein?
Bah, c'est ça, ouais. Donc, rebosser avec Super Poulet, aucun problème.
Hein? Voilà.
Bah.
Merci. Attends, t'as des petits chèques.
Ouais.
Grosse réunion là ce matin.
Tu dors ici ce soir?
Non, ce soir je reste chez moi, demain je me lève hyper tôt, faut que je dorme. Puis là le squat, je crois que ton frère commence à en avoir marre.
Et notre coup de cœur télé est consacré à un si grand soleil et on va parler d'un personnage qui vient d'arriver il y a pas très longtemps justement dans la série mais qui fait déjà beaucoup de bruit, François Lomière qui est incarné par Jérémy Covillo qui est justement avec nous en ligne. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Jérémy. Ce rôle de François Lomière, on ne sait pas sur quel pied danser finalement avec François Lomière. C'est ça qui doit être intéressant à jouer.
C'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est intéressant. C'est un personnage assez complexe, même s'il a l'air un peu brut de décoffrage comme ça. On a matière à travailler sur un personnage comme ça. C'est plutôt très intéressant.
Alors,
très amusant.
Il est arrivé dans le contexte où Evan veut monter sa clinique et cherche des investisseurs, et après Elisabeth Bastide, il s'est tourné vers ton personnage, Jérémy. Il se trouve que son assistante à l'hôpital, c'est ta fille, et donc c'est ta fille qui va faire un peu, on va dire, l'entremetteuse entre les deux hommes. Et donc on a vu, voilà, la semaine dernière, tout ce qui s'est passé, puisqu'en même temps, la femme d'Evan, elle, va le tromper avec Marc, Evan va noyer son chagrin avec Laurine, enfin bref, tout ça c'est un joyeux bazar, mais cette clinique en tout ça, on sait pas trop en fait c'est s'il est bien pensant ou s'il cherche plutôt les ennuis, ce François, vraiment quand même, hein. On a l'impression qu'il est un peu ambivalent. Hein.
Oui, mais c'est ça qui est, encore une fois, c'est ça qui est plutôt drôle et intéressant à jouer. En même temps, je trouve que dans son discours et dans sa façon d'être, il est plutôt très clair, hein. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent.
Ah bah oui,
trouver des façons, des moyens de faire de l'argent quoi qu'il arrive, comme il le dit dans une séquence qui a été diffusée déjà avec Evan quand ils sont au restaurant tous les deux, avant qu'il lui fasse tout son speech assez infâme et ordurier sur les femmes. Il lui dit clairement, moi ce qui m'intéresse c'est l'argent, je me fous de votre
clinique.
En gros, je me fous de la clinique.
C'est ça.
Ce que je veux savoir, c'est si on va faire du blé ou pas. Donc, il est plutôt très clair dans ses intentions professionnelles, on va dire. Ensuite, ce qui est intéressant avec François, et ce qui est assez jubilatoire à jouer, c'est évidemment tout son côté misogyne, infâme. J'ai vu des commentaires déjà sur les extraits qui ont été diffusés, notamment cette scène avec Evan, justement.
Ouais.
Ou les commentaires, je commence à être déjà d'ores et déjà détesté, mon personnage en tout cas.
C'est bon signe, c'est que t'as fait bien ton travail.
D'une part, ça prouve que effectivement
on y croit,
le personnage.
Ben oui.
Et d'autre part, je trouve ça très drôle, moi, d'être détesté. Je trouve que les personnages, c'est déjà assez génial à jouer. C'est très libérateur, c'est très amusant à jouer des personnages comme ça. Je ne suis évidemment pas comme ça du tout dans la vie. Les gens,
non, moi qui te connais un petit peu, c'est vrai, t'es complètement le contraire en plus. C'est clair.
Pour mettre les choses en place, mais quand je lis certains commentaires, on se demande si les gens ne font pas forcément la différence. Ils voient le personnage, donc je suis assez détesté. Et je trouve ça assez marrant. L'autre jour, je parlais avec un pote qui a fait une référence qui m'amuse beaucoup et qui a fait la référence à JR dans Dallas.
Oui.
Voilà, c'est ce genre de personnage, en tout cas, impitoyable, requin, et qu'on aime détester, et qui arrive malgré tout, par moments, à être, je l'espère, un peu charmant. Voilà.
Donc, qui est assez dur avec son fils.
Oui, moi je le prends. Enfin, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de les mettre. Il les met en concurrence systématiquement. Il promet à sa fille qu'elle sera à la succession des affaires et finalement, d'un seul coup, il la regarde en disant « Ton frère aussi, pourquoi pas ?» etc. Donc tous les deux se foutent en concurrence. Enfin, il y a un jeu pervers. Et c'est un pervers de toute façon dans toutes ces relations. Et encore une fois, c'est très amusant. Et j'ai un super rapport avec mes partenaires, avec les deux acteurs qui jouent mes enfants. Avec Jules et Elena, au contraire, on s'entend très très bien et on s'amuse beaucoup à jouer ce petit jeu, quoi.
Est-ce que tu es là pour un bon moment ou est-ce que c'est passager? T'es venu là pour faire un guest. Qu'est-ce que toi serait, en tout cas, si tu peux pas nous répondre à cette question, qu'est-ce que serait ton désir? Est-ce que t'as envie de t'installer dans la série à long terme ou plutôt d'accepter une mission d'être là pour 2-3 mois pour un guest un peu événement?
À la base, je pense que c'était le cas, c'est-à-dire que je pense que j'étais venu pour faire un guest pour 2-3 mois. Il se trouve que moi je m'amuse beaucoup, que le travail qu'on fait tous ensemble a l'air de porter ses fruits et de plaire. Donc je peux pas encore dire si je suis là pour longtemps ou pas. C'est un petit peu en discussion, on va dire. Moi, ça me ferait très plaisir de rester dans la série, de m'installer. Alors maintenant, moi, je ne fais pas que ça en ce moment. Je tourne la saison 3 des
Invisibles. Les Invisibles pour France 2, oui.
De Ronald Cistera. Je joue au théâtre à Paris en même temps. J'ai d'autres projets pour la rentrée au théâtre. En série également, enfin en tournage. Donc voilà, on va voir comment les choses évoluent. Je pense que il va y avoir des discussions d'ici peu. Et mais si il est question de s'installer un peu dans la série et de rester pour un moment, moi je serais absolument pas contre. Et j'en serais absolument ravi si on arrive à tout concilier et faire en sorte qu'on puisse travailler tranquillement tous ensemble. Voilà.
Alors, je crois que tu vas me dire si je me trompe, hein. Tu as été dans Sous le Soleil, dans Seconde B, quelques séries comme ça, un peu quotidiennes, mais c'est la première vraie grosse quotidienne. Est-ce qu'au niveau du rythme de tournage, de l'intensité de travail, est-ce que ça change quelque chose par rapport à toutes les autres séries dans lesquelles tu as pu jouer? Je pense au Papillon Noir dernièrement, par exemple, pour Arte, ou au Voyageur dernièrement aussi, pour France 3?
Ouais, alors, Sous le Soleil, j'ai fait, 2 ou 3 épisodes à l'époque, si je me souviens bien.
Ouais.
Je te parle de ça.
Mais le rythme était hyper soutenu, là, c'est pareil.
Oui, c'était soutenu, mais pas autant, si mes souvenirs sont bons. C'était, j'ai déjà été sur des sitcoms, j'ai déjà été sur des séries, où le rythme était assez soutenu. Là, il y a une façon de travailler un petit peu particulière. C'est vraiment, je vais pas dire une usine, parce que c'est pas le cas. On prend quand même le temps de travailler, on travaille avec des réalisateurs formidables. Plein de réalisateurs différents, je rencontre des nouvelles équipes, des nouveaux réalisateurs, pas tous les jours, mais presque. Donc c'est très agréable, il y a des façons de travailler avec certains réalisateurs, il y a des coachs, il y a des équipes différentes, etc. Donc faut s'adapter très vite,
ouais.
Faut être précis, faut être prêt. C'est une super école, enfin, je trouve que encore aujourd'hui, j'apprends encore en travaillant sur des séries comme ça. Il y a un vrai travail avec les comédiens, avec les coachs, avec les réalisateurs, avec les équipes. Tout le monde veut faire du beau boulot. Je trouve que ça se ressent même à l'image, au résultat. Et encore une fois, pour un acteur, c'est super agréable. Mais c'est pas du tout la même façon de travailler que sur des séries, sur des 52 minutes ou des 90 minutes qu'on fait pour la télévision, comme Le Voyageur. Le Voyageur, c'est on est en extérieur tout le temps, il n'y a pas de studio. C'est vraiment comme si on tournait un téléfilm. On n'a pas du tout les mêmes temps de tournage, c'est pas les mêmes cadences, etc. Là, effectivement, sur Un Si Grand Soleil, il faut... être très très prêt, très précis, mais c'est très agréable en même temps. Enfin, il y a une équipe d'acteurs formidable. Je pense à Catherine Wilkening, qui est une de mes partenaires principales aussi dans la série, qui joue Claudine. On s'entend parfaitement. C'est un plaisir de travailler ensemble.
Mais ça se ressent. Voilà. Bon. Les Invisibles, en tout cas, saison 3, si je m'abuse, que tu es en train de tourner actuellement, où tu vas reprendre le costume de Cistera.
Oui, dans un nouveau poste. Hein, maintenant, il est devenu commissaire.
Ça rigole plus.
Donc, ouais. ça lui permet d'être encore plus désagréable et méchant. Ça reste un bon flic, évidemment. Mais c'est, voilà. Mais il se passe plein de choses. C'est très riche. La saison 3 sur les Invisibles, elle est très riche. Il y a beaucoup de choses entre Darius et Cistera, justement. On explique un petit peu aussi le passif de ce qui leur est arrivé avant. Pourquoi Cistera est aussi méchant et aussi, on veut autant à Darius. Donc c'est très intéressant. On prend beaucoup de plaisir aussi. Avec Chris Briand et Chloé Micou, les réalisateurs, et évidemment l'équipe des Invisibles. Ça, c'est un plaisir. C'est une série que j'adore tourner, une équipe que j'affectionne particulièrement aussi. Voilà.
Eh bien, écoute, on va te laisser retourner sur le tournage. Je sais que tu t'es échappé quelques minutes des caméras pour nous. Alors, on te remercie infiniment, en tout cas, Jérémy, d'avoir été avec nous pour nous parler un petit peu de tous ces projets. Tu reviens quand tu veux, en tout cas.
Ben, quand tu veux, toi.
Eh ben allez, voilà. On se donne rendez-vous pour la diffusion des Invisibles. On va te laisser la tournée tranquillement et puis on revient vers toi pour le lancement de la saison, promis.
Ben super, merci beaucoup, à très
merci
bientôt.
Merci à toi. Allez, ne bougez pas, Magali va aller nous rejoindre dans un instant dans Chute en écoute la télé. On va parler de la sortie de son nouvel EP. La grande gagnante de la Starac 5 reviendra également sur le retour de l'émission. À tout de suite.
Chute en écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Et on va parler un peu musique pour terminer cette émission avec Magali Vahé. Rappelez-vous, c'était la gagnante de la Starac 5. Bonjour Magali, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci, avec plaisir.
Eh bien écoute, c'est la deuxième fois qu'on t'accueille dans l'émission et c'est toujours en tout cas un plaisir. Alors on va attaquer un petit peu ton actualité d'ici quelques instants puisque tu viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle MV. Tu vas nous le présenter puisqu'on va d'ailleurs en diffuser aussi deux titres. Mais déjà, la première question que j'ai envie de te poser, quel regard tu as posé sur ce grand retour de la Star Academy? Est-ce que c'est à la fois un brin de nostalgie et à la fois un bonheur de voir revenir cette émission qui t'a fait découvrir au grand public?
Je pense que c'est un peu des deux. Et surtout en revoyant le château habité, ça m'a fait très très bizarre. L'ouverture du château le premier soir, ça a été un grand vent d'émotion qui est arrivé. Et puis non, mais revoir vivre cette émission dans les années 2020.
C'est ça.
Voilà, avec... forcément notre emblématique Nikos et en même temps des tout jeunes candidats qui on l'a bien vu ne sont pas du tout comme nous à l'époque et ils avaient l'air beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est les réseaux sociaux qui font tout ça.
Oui, il y a les réseaux sociaux, il y a pas de smartphone à l'époque hein, je rappelle que c'est pareil. Alors, si hein, vous aviez à peine de téléphone.
Ouais, c'est ça, c'était le début des smartphones mais nous on était encore à MySpace à l'époque.
C'est ça.
Voilà. Il y a que les moins de 20 ans qui ne connaissent pas.
mais c'est vrai que parmi vous, il y a cette nostalgie du château et malgré que la dernière saison sur TF1, la 8, s'était déroulée dans un hôtel particulier à Paris et que celle d'Énergie 12, elle s'était déroulée également ailleurs, elles n'ont vraiment pas reçu le même succès qu'une saison au château de Damary-les-Dix qui est pour moi vraiment un personnage à part entière de cette émission, quoi, un membre de l'émission.
Mais bien sûr. Il y a deux personnages importants à la Starac, c'est le château et Nikos. Mais s'il n'y a pas le château, ça marche pas. S'il n'y a pas Nikos, ça marche pas. C'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre.
Bon, en tout cas, c'est toujours avec bonheur qu'on te reçoit et surtout que tu continues ton bout de chemin. On aura l'occasion de te découvrir d'ailleurs en concert tout au long de l'été dans les campings paradis qui vont t'accueillir un petit peu partout en France. Mais on va parler d'abord avec Tiad et on va parler d'ailleurs de cette EP. Est-ce que c'est déjà le signe un peu annonciateur d'un futur album, Magali?
Seul le futur le sait, voilà. Seul le futur le sait, moi je suis beaucoup dans le présent. Donc pour l'instant c'est l'EP, j'espère bien sûr que ça pourra se transformer en album, c'est le public qui va décider, voilà, c'est un peu ça, on verra l'avenir que lui réserve le public.
Alors comment il a été construit d'ailleurs cet EP?
En fait il a beaucoup changé au fil du temps parce qu'à la base il était prévu il y a quand même 2-3 ans, mais un certain virus nous a un peu embêté puisque le premier single de l'EP en fait est sorti il y a 3 ans, c'était Des Pleurs, donc une chanson que j'ai écrite est composé par Sébastien Dujardin, donc il est sur cette EP, mais les autres titres qui étaient prévus ont changé au fil du temps. Parce que j'ai changé, je pense que tout ce qu'on a vécu, ça nous a changé, et le message que je voulais passer a changé. Donc je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, voilà. Je voulais vraiment du positif dans cette EP, et du coup voilà, j'ai eu la chance de faire des rencontres qui ont fait que tous ces titres sont nés. Gérard Capaldi, Johan Zerneski, Franck Coty, voilà, c'est les personnes avec qui j'ai travaillé pour les autres chansons de cette EP, est né MV. Après, voilà, c'est ce que je dis, MV, ça veut, forcément, on se dit, ça veut dire Magali Vahé. Oui. Mais en fait, chacun peut faire sa description.
Exactement.
Chacun peut donner le titre à l'EP comme il veut.
Si je comprends bien, c'est un peu l'EP qui reflète le plus ton humeur du moment, du coup.
Ah, mais toujours, en fait. Quand je sors quelque chose, je veux qu'il me ressemble au moment T. Il n'y a que le premier album, c'était encore je tâtonnais. Voilà, j'étais toute jeunette. J'ai été très bien aiguillée par Rick Allison à l'époque, mais voilà, je savais beaucoup moins ce que je voulais. Aujourd'hui, parce que le deuxième EP aujourd'hui, je savais ce que je voulais. Et là, je suis dans une période où j'ai envie de faire sourire les gens. J'ai envie qu'ils oublient ce stress du quotidien, ces mauvaises actualités. C'est le but recherché, voilà, les faire sourire.
Eh ben écoute, je vais faire un jeu de mots justement pour tout de suite rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que le monde est en train de devenir complètement fou, on est d'accord. Et si ça continue comme ça, on va tous devenir fous. Et c'est le titre, le premier titre de cette EP qu'on va écouter tout de suite. On revient juste après avec toi, Magali.
Oui. Plier ses rancœurs et se sentir bien. Oh, de mille couleurs. Partager sans fin et faire son chemin sans regarder derrière, tout droit sans prendre un chemin de travers. Il faut s'envahir de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout.
Voilà, devenir fou, c'est le premier extrait qu'on vous fait découvrir du nouvel EP de Magali Vahe. Et d'ailleurs, le clip vient tout juste de sortir depuis mercredi dernier. Vous pouvez c'est découvrir ça. En image, en tout cas, ce très beau titre que l'on vient de vous présenter. Mais on va vous faire découvrir aussi un deuxième extrait d'ici quelques instants, évidemment, Magali. Mais devenir fou, si on doit raconter un petit peu l'histoire de ce titre qu'on vient d'écouter là.
Vu que c'est le titre phare de l'EP, c'est vraiment ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire... On veut oublier tous nos problèmes, que ça soit les problèmes personnels, les problèmes de la vie en général, même des problèmes qu'on a pu avoir dans le passé, qui des fois, voilà, nous parasitent encore un peu, même des années plus tard. Il faut juste lâcher prise et sourire et profiter du moment et s'enjailler. Voilà, c'est exactement dans la chanson, et s'enjailler.
Alors, pendant tes tournées, l'été, tu es en duo avec Tiad, votre duo, il est ultra drôle, vous faites des vidéos. À chaque fois que vous allez arriver dans un camping, vous faites des vidéos, mais c'est hyper drôle. Mais à chaque fois, moi, je rigole quand je vois ça. Et je me dis, mais ils ont une façon très drôle d'annoncer leur arrivée, quand même.
C'est venu vraiment par hasard. Au début, on a fait une vidéo pour annoncer le tout premier camping de l'année dernière. Et puis, on y a mis une petite touche humoristique, mais légère. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, on a été un peu plus loin, puis un peu plus loin. Et puis, on a vu que ça plaisait, donc on était contents. Donc, du coup, on a été encore plus loin. Et maintenant, on essaye de trouver déjà des idées pour cette année. Parce que, bien sûr, nous allons...
Vu que t'as une sacrée tournée, on va vous donner quelques dates. Vous allez voir qu'elle va pas chômer, Magali, avec Tiad cet été.
Ah oui, non, on en a encore plus que l'été dernier. Et on est ravis de retourner sur la tournée Paradis des Stars, des Campings Paradis, de refaire ce voyage et toutes ces belles rencontres. Parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu l'année dernière, que ça soit au niveau du public, des équipes. Puis la beauté des paysages qu'on peut voir au fur et à mesure de nos routes aussi. C'est voilà, c'est vraiment une belle aventure. Très, très belle aventure.
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est la rencontre du public. Parce que dans ce métier, on le sait tous, c'est voilà faire être gagnante de la Starac, faire des titres, c'est assez facile au départ, on va dire, quand on gagne une émission comme ça. Mais le plus dur, c'est de rester. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, tu t'aperçois que le public ne t'a pas oublié, que dans les campings, les gens viennent te voir. C'est incroyable. Et oui, 18 ans. Ben oui, 2005, 2023. Faut que j'apprenne à calculer quand même, Magali. T'as raison.
Mais c'était au mois de septembre. Ça fera 18 ans.
Mais oui.
Mais bon, voilà, quelques mois après.
La majorité en septembre.
Voilà, c'est ça, on devient majeur cette année.
Non, mais c'est dingue. Comment t'expliques ça?
C'est inexplicable et en même temps, chaque jour, ça me surprend, mais chaque jour, ça me touche énormément de voir que 18 ans après, malgré le fait qu'on ne me voit pas beaucoup, c'est vrai que je ne passe pas beaucoup à la télé, je ne passe quasiment pas à la radio, les gens en concert sont toujours là. Et même sur les réseaux sociaux, et voilà, et c'est un truc, ça s'explique pas, il y a que le public qui peut expliquer, en fait, pourquoi. Je les remercie. Enfin, il y a que ça, en fait, les remercier, puis continuer à chanter, puisque s'ils me suivent, c'est aussi pour ça, donc, voilà, continuer à faire partager ma musique et être là pour eux.
5 titres pour cette EP, ça s'appelle MV, ça vient tout juste de sortir sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légales. Et Magali, on va préciser, 5 titres. Mais est-ce que tu as dû faire un choix sur cette EP? Est-ce que tu en avais d'autres de près? Et si oui, pourquoi ces 5-là par rapport aux autres que tu as peut-être laissés sur le bord de la route pour l'instant, en attendant un album éventuel?
C'est ce que j'ai expliqué en fait, c'est que ma façon de voir les choses, le message que je voulais passer a évolué. Donc il a fallu forcément dire non à des chansons.
Qui étaient peut-être plus mélancoliques du coup?
oui, plus mélancolique, où les messages étaient peut-être un peu plus durs. Alors, je dis pas que l'EP est tout rose non plus, hein. Bien sûr, des pleurs, déjà, à la base, c'est pas la chanson la plus joyeuse, déjà, rien que par le titre. Bon, mais c'est ma chanson. Donc, je la garde. Et puis, est-ce que tu m'aimerais si, c'est aussi une chanson un peu dure, puisque c'est la chanson, où moi, je me pose des questions, où en tant que femme, je me demande, est-ce qu'on m'aime quand je parle des personnes quand je suis en couple? Est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis? Ou est-ce qu'on m'aime pour la personne publique que je suis?
Allez, on va citer toutes les dates que tu vas avoir donc cet été en concert. On te retrouvera sur le coin de la Vendée entre le 18 et le 28 juillet. Tu passeras par la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer, Saint-Hilaire-la-Forêt, Jarre-sur-Mer, Saint-Julien-des-Landes. Et puis tu commenceras une tournée vers la Charente et la Dordogne à partir du 31 juillet. Et tu passeras par le Bugue, Aubeterre-sur-Drône, la Monzie-Montastruc ou encore Petit Palais et Cannes, Saint-Félix-de-Bourdeille, Villeneuve-sur Lot du côté du Lot-et-Garonne, avant de revenir en Charente-Maritime à Saint-Palais-sur-Mer le 30 août au camping Paradis Les Pins du côté de Royan. Bref, tu vas passer un été, on va dire, qui va être bien animé.
Génial.
Ouais, exactement.
On va bien s'amuser avec Tia, donc on va encore passer un bel été, ouais. Donc si les gens n'ont pas retenu toutes les dates que tu viens de dire,
voilà, c'est magalivae.fr.
Tout est disponible, exactement, voilà, sur mon site internet.
Et vous avez les liens évidemment aussi pour justement aller découvrir cette EP de Magali Vaillé. On va découvrir maintenant un deuxième extrait.
Celui dont j'ai parlé il y a pas longtemps justement.
Est-ce que tu m'aimerais si? Eh ben voilà. Eh ben écoute, ouais. On va se quitter là-dessus et puis on se retrouve très très vite à la fin de l'été. On essaiera d'aller te voir dans l'été pour venir à ta rencontre, en tout cas celle de Tiad.
Avec grand plaisir. Ben merci beaucoup.
À très bientôt Magali. Merci à toi.
À bientôt. Merci.
Prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le grand plaisir de recevoir Tiffaine Davio qui est à l'affiche de la série Les Randonneuses. Et bien d'autres surprises vous attendront encore. Restez connectés.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude. C'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale. Un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.